consommation.
Je ne vais quand même pas passer mon temps à m'expliquer.
Troisième sommation.
Ça suffit.
Troisième sommation.
D'accord.
Ok.
Vous écoutez Radio. C'est ici que ça se passe.
Yep. On revient et on propose donc à José de venir s'asseoir avec nous, à Davy aussi, parce qu'il y a quelques questions qui ont été proposées par le public, et aussi parce qu'il y en aura certainement d'autres qui seront proposées elles aussi par le public. Donc allez-y, venez, installez-vous. Prenez un casque. Alors on a quelqu'un qui n'osait pas venir au micro, qui a préféré écrire sa question. La question c'est la suivante. D'après vous, messieurs, quelle garantie pour les décisions après les élections, sachant que la Constitution n'oblige pas le prochain gouvernement à suivre les décisions du précédent? Quelle garantie pour les décisions après les élections, sachant que la Constitution n'oblige pas le prochain gouvernement à suivre les décisions du précédent, d'après vous?
Alors, en ce qui me concerne, il y a toujours le cadre juridique, cadre légal, la Constitution, c'est une chose. Mais pour moi, aujourd'hui, la seule garantie que nous pourrions avoir, c'est le suivi qu'on pourra donner à tout ça. On a bien vu, il y a des documents qui sont actés, des contrats signés, des conventions signées. Pour autant, il y a plein de choses qui ne sont pas appliquées. Des lois votées qui ne sont pas respectées. La seule chose qui fera que ça pourra marcher et ça pourra perdurer, c'est notre capacité à suivre les dossiers, à les mener au bout. Donc, on ne va pas juste s'arc-bouter derrière un document signé et dire « voilà, la loi dit ça, la loi dit pas cela ». Nous, en tout cas, on en a discuté. On va faire de façon à ce que les décisions du peuple qui ont été actées durant ce mouvement soient respectées et voient le jour, quoi qu'il arrive.
Donc la décision, la garantie, c'est le peuple, c'est vous, c'est nous aussi, et puis c'est rester vigilant, même après, tout le temps, sur ce qui se passe, quoi. C'est ça la garantie.
C'est ça, exactement, comme dit Davy. Nous allons créer un comité de suivi pour suivre ces projets à court, à moyen terme et à long terme. Voilà, ça, on aura la responsabilité, le peuple, de suivre pour que le gouvernement puisse respecter, quel que soit le gouvernement qui sera élu, suivre et respecte ses engagements jusqu'au bout.
D'accord, donc un comité de suivi aussi pour assurer. Une autre question ?
Oui, moi j'ai pris les questions du public et j'entendais, en fait, on voulait savoir comment ça s'est passé, parce que tout le monde n'a pas vu les images de Guyane Première. Bravo à tous d'avoir réussi à ce que les médias puissent venir pendant les débats. Ça a été un gros combat, j'ai suivi ça ce matin, j'ai fait un ou deux zappings de ce qui s'est passé sur Guyane Première. C'était énorme, les 500 frères devant la préfecture qui disent toutes les 10 minutes on fait deux pas en avant et on lâchera pas l'affaire, c'était énorme. Et il n'y avait pas le choix, c'était sûr. Mais vous, comment vous l'avez vécu dedans? Ils sont à l'écoute, ils entendent, on peut avancer?
Alors, je vais raconter une anecdote quand même. Quand, à un moment donné, une petite délégation dont je faisais partie, nous sommes remontés voir les ministres, on leur a dit, bon voilà, eux, d'abord ils nous ont dit, bon écoutez, on est d'accord pour que les médias viennent et que vous fassiez une déclaration, après ils sortent. Et la configuration c'est que c'est pas la même délégation que ce matin, en délégation réduite. Je les ai regardés, je leur ai dit, écoutez-moi bien. Si vous pensez que moi, je vais retourner voir les copains dehors pour leur dire non seulement on vient moins nombreux que ce matin, et c'est pour faire une déclaration alors qu'on en avait prévu trois, et c'est même pas la peine, c'est mort, et je pense que vous allez foutre le feu aux poudres. Quand j'aurais dit ça, on allait partir, on dit attendez. Ils sont rentrés dans la pièce du préfet. Au bout de deux minutes, ils reviennent. Bon, ben d'accord. Comme ce matin, la même délégation et le même ton et les trois déclarations sont actées. Ce qui est navrant dans tout ça, c'est encore une fois, c'est que malgré la pression populaire, il faut encore mettre la pression durant les discussions pour qu'ils puissent céder, juste pour le fait d'avoir les médias. Donc c'est dommage.
Il faut toujours passer par un plus pour y aller. Moi, j'ai regardé un peu, j'ai fait un petit zapping de ce qui se passait ce matin en regardant Guyane Première. J'ai enregistré des choses qu'on a entendu un peu tout à l'heure. Et ça sentait que c'était un jeu de qui allait pas lâcher, qui allait montrer qu'on était déterminé. Et les 500 frères, gros big up aux 500 frères, parce que il n'y a pas eu de violence, tout le monde a été bien maintenu, contenu même, parce qu'apparemment, il y en a qui avaient envie d'y aller. Il y en a qui avaient vraiment envie d'y aller. Mais franchement, ouais, du coup, José, on t'a pas entendu depuis tout à l'heure.
Non, c'est... Non, je pense que tout le monde avait été briefé ce matin. Dans l'état d'esprit de tous les manifestants de ce matin, à aucun moment, il y avait lieu d'être d'aller à la confrontation. Même on a fait une réunion juste avant, on s'était dit « bon, on va, on avance, et même à un moment donné, on va s'asseoir par terre et prendre des coups ». À aucun moment, il y avait cet état d'esprit d'aller à l'affrontement. Par contre, on gardait position. Voilà. On avançait et on a dit qu'on restait devant jusqu'à ce qu'on arrive devant la porte de la préfecture, mais sans violence. Voilà, c'était ça un peu l'état d'esprit, de la détermination, sans violence, mais vraiment qu'on reste solide, debout, que personne ne nous jette. Voilà, c'est ça.
Denis avait une question aussi.
Davy Riemann, José, Marie-Emma, aujourd'hui vous avez été en avant, vous avez emmené le peuple derrière vous, parce que vous estimez qu'on ne peut plus faire confiance aux politiques. Demain, lorsque vos revendications vont aboutir, comment allez-vous avoir un œil sur la gestion de toutes ces revendications que nous allons avoir, nous, la Guyane, puisque vous savez bien que ce sont les politiques qui vont encore gérer ça.
Alors, je pense qu'on a annoncé la couleur, hein. Les politiques, oui, après ils vont prendre la main parce qu'ils vont devoir gérer ces dossiers-là, ça c'est clair. Mais comme José l'a dit, on a l'idée déjà de mettre en place, suite à cela, un comité de suivi pour rester vigilant, parce qu'on va devoir rendre compte à la population. Donc il y aura des retours qui seront faits. C'est ça qui est important, que pour que les personnes sachent où en sont les différents sujets, les différents dossiers. Et par rapport à cela, nous resterons vigilants aussi par rapport à nos élus qui sont là et qui devront mener à bout tous ces dossiers-là. Par contre, je tiens à rappeler, il ne faut pas faire d'amalgame. On a un problème avec le comportement de nos élus à différents niveaux. On n'est pas contre l'action, la classe politique en elle-même. C'est juste qu'aujourd'hui, nos élus ont failli parce que soit par crainte, par peur, ou je n'en sais rien, je ne sais pas pourquoi, mais quoi que l'on soit aujourd'hui, à partir du moment où le peuple décide de prendre la main, ils se mettent sur le côté, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont compris, je pense, aujourd'hui, mais on a toujours dit, hein, au lendemain de ce mouvement-là, ils reprendront toute leur place, toute leur légitimité dans l'action politique, et ils devront aussi eux-mêmes veiller au grain au travers de leur fonction d'élu.
Voilà, pour compléter avec Davy, voilà, alors, deux choses, une gouvernance que nous devons mettre en place et ensuite un comité de pilotage composé de différents référents de chaque pôle qui ensuite auront un œil sur l'avancée de tous les dossiers et ensuite qui soumettra ça à la gouvernance et qui pourront après ensuite mener la politique que doivent mener nos politiques. Voilà.
Les questions sont claires, mais les réponses sont plus précises encore. Messieurs, dames, vous avez des questions, les micros sont à vous. Alors, des questions ou des remarques, venez, approchez-vous. C'est par ici que ça se passe.
Davy Riemann, José Mariema, vous savez que tous les leaders de mouvement sont toujours sollicités par les politiciens. Si demain vous êtes sollicité, quelle sera votre réaction, votre position?
À l'heure actuelle, moi, je ne me projette pas dessus pour l'instant. Je suis dans l'action, en tout cas syndicale. Moi, je suis un leader syndical avant toute chose aujourd'hui. J'ai mon combat syndical à mener dans mon entreprise. C'est ce combat syndical qui nous a amené, en tout cas moi, qui m'a mis au devant de la scène publique à l'heure actuelle. Donc, étape par étape, on va finir ça déjà. Si demain les élus s'approchent de nous, je pense que je leur ferai la réponse que j'ai déjà faite. Hein. Avant de courir, il faut savoir marcher. Et là, je suis en train d'apprendre à marcher au travers de l'action syndicale, qui, je rappelle ou je précise, le monde syndical, quand il est fait de façon saine, c'est une école d'apprentissage de la démocratie. C'est l'un des systèmes où rien ne se fait, par exemple, si l'Assemblée générale qui représente les salariés, si elle n'a pas donné son feu vert, quelle que soit l'action, vous ne pouvez pas la faire, elle n'est pas légitime. Et c'est dommage que dans le monde politique, qu'on n'applique pas ce principe démocratique de base. Si la population, sur quelque chose d'important, je dis bien d'important, un sujet important, elle doit être consultée, donner sa position afin que ça soit exécuté ou pas. Et donc je dirais à certains qui se rebutent encore par rapport au mode syndical, il faut y aller. C'est comme le même politique, il faut y aller. Ça, on apprend beaucoup, moi en tout cas, et j'apprends beaucoup grâce au mode syndical. Donc le mode politique, on verra d'ici là si effectivement il est intéressant d'y aller ou pas. Mais je termine mes armes dans le monde syndical et on verra par la suite.
Parce que Riemann, c'est quand même un nom déjà politique. Et il y a beaucoup, comme on est sur le secteur de Kourou, qui réclament toujours réparation pour Kourou, pour certains quartiers. Ils ont été expatriés. Ça aussi, c'est un combat. Quand on s'appelle Riemann, quand on habite Kourou, quand on est jeune, quand on est déterminé, quand on est un meneur.
Alors, c'est clair que derrière cette revendication-là, elle est dans ce qu'on a transmis au ministre aujourd'hui. C'est sûr que ce qui s'est passé à l'époque de l'expropriation pour la base spatiale, je ne comprends pas, même moi aujourd'hui, hein, qu'il n'y ait pas eu réparation. C'est inadmissible. On a exproprié des personnes de leur terrain, de leur propriété, pour un bien public, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et jusqu'à aujourd'hui, on a installé ces familles dans, excusez-moi l'expression, hein, dans des cages à poules là-bas. Et on ne peut pas admettre cela. Donc je vois que là où l'hypocrisie elle est énorme, il y a eu réparation pour différentes communautés dans le monde. Mais là où je vois qu'il n'y a pas du tout de réparation, c'est pour l'homme noir, malgré tout ce qu'il a subi. Donc je dirais que avec le temps, les mentalités évoluent et peut-être que notre génération qui arrivera un jour, demain, au pouvoir fera en sorte que les choses, les vérités se rétablissent et que les réparations se fassent en bonne et due forme.
José Mariema, quel est ton leader, ton référent quand tu es dans la lutte? Il y a des référents syndicaux, il y a des référents politiques. Il y a des référents qui sont aussi des artistes, qui mènent des mouvements. Est-ce que toi, tu as un leader? Tu as quelqu'un?
Oui. J'ai un leader, c'est mon père. Oui. Mon père, Jean-Marie Emma, qui était un exemple, effectivement, pour la Guyane. Et depuis plusieurs années, il s'est battu. Il s'est battu pour être reconnu comme Guyanais, son père chinois, sa maman Sainte-Lucienne. Et souvent à l'époque, quand votre papa était chinois et votre maman Sainte-Lucienne, on disait « Ouais, c'est pas Guyanais, quoi. On l'appelait le chinois nègre. » Vous voyez ? Et il s'est battu pendant plusieurs années. Aujourd'hui, mon père était sur le lit d'hôpital quand il a vu la Guyane se lever et de voir tout ce peuple réuni entre Chinois, Brésiliens, Haïtiens, Métropolitains, Italiens, quelles que soient les origines, tout le monde était dans la rue ensemble. Mais je pense que c'est de là que je prends ça, cette énergie, parce que pour moi, je pense que c'est un combat que beaucoup de personnes en Guyane mènent, qu'aujourd'hui qu'on puisse mettre ce maillage-là dans la rue et dire que voilà, voici la Guyane, voici le peuple guyanais. Et je pense qu'enfin, ça y est, on l'a démontré. Et je pense que nous avons fait une belle démonstration. Et moi, je suis animé par ça. Je suis animé par, par ce mélange, par cette population diverse des quatre coins du monde. Et avec nos enfants qui, demain, ont besoin que nous soyons là pour les accompagner. C'est toutes ces choses-là qui m'animent. Et bien sûr, mon référent, oui, c'est mon père, Jean Mariema.
Bravo, bravo, ouais. José Davy, nous avons deux questions du public. Alors, une qui est assez globale et une qui est très précise. Je vous propose de commencer par la plus rapide, la plus précise. À quelle heure la réunion de samedi à la préfecture ?
Il n'y a pas... En fait, quand nous... Non, nous, demain, c'est 9h. Samedi matin ?
Au plus tard 9h.
Au plus tard 9h.
Au plus tard 9h, ça commence.
Voilà.
Au plus tard
9h. On leur a donné 48 heures pour nous répondre.
Voilà.
48 heures. Voilà. Alors, ils ont un délai pour nous répondre. Ils peuvent le faire avant, hein. Nous sommes prudents. Mais ils ont 48 heures pour nous donner une réponse écrite. Bien sûr, on veut une réponse écrite.
Très bien, donc on vous tiendra au courant. Et l'autre question, elle est par rapport aux activités du CSG. Est-ce que vous pensez que les activités du centre spatial pourraient avoir des retombées importantes pour le peuple guyanais ?
Alors, déjà, on va poser deux problématiques d'ordre politique. La première, le centre spatial a une superficie qui est équivalente à celle de la Martinique. Et pour autant, elle ne paye pas un centime sur le foncier. Rien du tout. Deuxième problématique, tous les satellites commerciaux qui arrivent sur notre territoire, eh bien, grâce à l'Union européenne, il n'y a pas d'octroi de mer. Ce sont des millions d'euros à l'année qui auraient pu bénéficier à la collectivité territoriale. Tout ça pour dire quoi ? Est-ce que l'activité spatiale pourrait avoir des retombées ? Logiquement, ça aurait dû déjà l'être. Kourou n'aurait pas dû être comme ça. Quand vous voyez, vous prenez des villes comme Cap Canaveral, aux États-Unis, qui a le meilleur hôpital des États-Unis, et les gens viennent se faire soigner là gratuitement. Pourquoi ? Parce que c'est un site classé, Céveso, et donc très dangereux. Et pour pallier à toutes sortes de catastrophes liées à ce site-là, ils en ont fait un fleuron de la médecine. Et ce n'est pas normal que le CMCK ne soit pas de ce même niveau-là. On a un outil pareil, similaire, là, à côté de nous. Et le CMCK, on en fait quoi ? On est en train de le démanteler, ce qui est incroyable. Aujourd'hui, Kourou, pourquoi est-ce que, par exemple, la Guyane n'aurait pas dû avoir un satellite pour avoir une liaison Internet optimale, avoir des chaînes de télévision gratuites comme partout ? Non, on est encore loin de tout cela. Donc, la question, je ne l'aurais pas posée comme ça. Est-ce qu'il y aura des retombées ? Ça veut dire, pourquoi est-ce que les retombées n'ont pas eu lieu déjà depuis le temps qu'Ariane décolle de Guyane ? C'est la bonne question. Donc voilà mon problème, moi. Aujourd'hui, politiquement, il faudrait que la France, les élus de Guyane, on s'assied en concertation et qu'on se dise les vérités. On ne peut pas se permettre de continuer à envoyer un tel outil admirable dans l'espace et qu'il n'y ait pas de retour direct pour le territoire guyanais. Et surtout même, je dirais, pour la ville de Kourou déjà. Et là, ça me pose un problème.
José, un mot là-dessus ?
Oui, je rejoins totalement Davy. Moi, je voyais la Guyane comme un petit Monaco, normalement, pour moi, la Guyane. On ne peut pas aujourd'hui continuer à lancer des fusées. Je prends l'exemple de Kourou. Si vous regardez tous nos espaces sportifs pour nos jeunes, c'est inadmissible. Aujourd'hui, je prends l'exemple du foot, du rugby, c'est inadmissible. On ne peut pas avoir des établissements de ce nom, de ville spatiale. On doit galérer pour aller jouer au foot. Les jeunes galèrent pour jouer au basket. Je prends que dans le domaine du sport, hein. Je ne veux même pas m'étaler après sur les infrastructures, sur les PK. Je ne veux même pas m'étaler sur notre sécurité à Kourou, les vols, les viols, les braquages. On ne vit pas, les gens n'ont plus envie de sortir. Et on est dans la ville la plus sécurisée de Guyane. On est la ville la plus sécurisée de France. Et aujourd'hui, on galère, on ne sort plus à Kourou. On en a marre. Et on lance quand même des fusées. Tout va bien. Regardez nos routes en ce moment. C'est une catastrophe. Et vous tournez le dos là-bas, vous partez 100 mètres plus loin. C'est une piste d'avion partout. Partout, là, c'est une piste d'avion. Alors, il y a quoi? Il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que là-bas, nous sommes en Europe. Et ici, on est au fin fond du monde. C'est quoi? On est laissé pour compte? Eh bien, on dit non. On dit non à la France. On dit non à l'Europe. Nous sommes là aussi. C'est notre pas de tir à nous aussi, nous, la Guyane. C'est chez nous. Nous sommes fiers de lancer des fusées aujourd'hui. Alors respectez-nous aussi. Et nous voulons avoir le retour des fusées à la, de, que nous lançons ici sur le centre spatial guyanais.
La prochaine question s'adresse plus particulièrement à Davy, puisqu'elle parle... alors les deux prochaines, elle parle d'énergie, elle parle d'EDF aussi. La première, c'est qu'est-ce que, Davy, tu penses de la biomasse?
Bon, je vais répondre sans détour. Pour moi, l'énergie renouvelable, ce n'est pas aller couper des hectares de forêt pour aller brûler, pour produire de l'énergie. Pour moi, ça n'a pas de sens. Après, il y en a qui disent oui, mais bon, ça dépend de la puissance qu'on va produire. On peut prendre que de la défriche agricole quand on installe les agriculteurs. Et ensuite, on va brûler le bois qu'on aura coupé afin de les installer. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas le quantifier. Il n'y a pas de programme clairement établi. On ne connaît pas le coût qu'on va devoir supporter, puisqu'il n'y a pas d'études dessus toujours. On a un problème aussi avec les infrastructures routières, parce que le bois doit être transporté par des grumiers. Et on voit sur la route de l'Est les dégâts que font les grumiers sur les routes de Guyane. Et tout ce que je dis là, il est dans le rapport de la Commission de régulation de l'énergie, qui est le gendarme de l'énergie en France, et qui a pointé ça du doigt. Donc la biomasse, pour moi, à l'heure actuelle, on n'a pas cette visibilité pour dire que c'est la réponse à l'avenir énergétique de la Guyane. Par contre, la Guyane a beaucoup d'autres atouts, tels que la mer. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, l'océan Atlantique est l'océan où est-ce que les courants marins sont les plus puissants. Et on n'utilise pas assez nos fonds marins pour avoir cet apport énergétique. Les pays scandinaves, les pays nordiques le font beaucoup. Nous, en tout cas, au niveau de la France, on ne l'utilise pas assez. Il y a aussi les fleuves de Guyane. Il y a le barrage de Petit Saut. Mais pareil, si on doit faire un deuxième barrage tel que Petit Saut, on ne va pas noyer une forêt telle que c'était fait en 1994. On va devoir préparer la surface qu'on pense noyer pour faire un autre barrage. Après, il y a le solaire. Pour moi, le solaire fait partie des réponses qui peuvent être mises en place en Guyane. De la mesure que la Guyane était à une surface plus ou moins plane, hein. Il n'y a pas de beaucoup de relief. Et on a beaucoup de place pour poser ces panneaux solaires-là et jouir du soleil qu'on a tout au long de l'année. Donc, il est là le débat. C'est avons-nous regardé toutes les possibilités en matière d'énergie renouvelable pour la Guyane avant d'axer le tout au travers de cette PPE-là sur la biomasse. Je rappelle que la biomasse, à l'heure actuelle, c'est un montant de 600 millions d'euros de subventions. Ça veut dire quoi? C'est qu'on attire les investisseurs à s'installer, puisque derrière ça, on leur garantit le prix de rachat, quel que soit le kilowatt produit. Vendu ou pas, on le rachète tout. Donc, en fait, comme l'État ne veut pas financer, au travers des subventions mises en place, sous forme de crédit d'impôt, les investisseurs viennent, s'installent, produisent, ils ont la garantie de rachat. Et pour finir, je rappelle que la garantie de rachat, elle est consolidée par la CSPE. La CSPE, c'est ce que vous payez sur vos factures, dans le dos. Il y a plusieurs lignes. Il y a une ligne marquée CSPE et c'est ce qui garantit premièrement que tout Français, quel que soit son territoire, il paye le même prix au kilowatt. Et cette CSPE-là, c'est celle qui garantit aussi le prix de rachat des producteurs autonomes, entre guillemets. Donc ça veut dire que le client lambda paye deux fois la facture. Il paye au travers de sa facture d'EDF, il va payer après au travers de la CSPE récoltée sur sa facture pour payer les producteurs privés. En tout état de cause, la biomasse, pour moi aujourd'hui, n'est pas la production renouvelable la mieux placée en Guyane pour la mettre en œuvre. Et vu la subvention que prévoit l'État pour ça, je trouve ça démesuré. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi.
La prochaine question est toujours adressée à toi et elle est beaucoup plus triviale. Elle vient elle aussi du public et elle vient de façon anonyme. Si le directeur d'EDF reste, qu'est-ce que tu fais ?
Alors, j'ai pour habitude de dire que à l'heure actuelle, EDF fait partie de ma vie, mais EDF, ce n'est pas ma vie. C'est un travail comme un autre. Sauf que si demain le directeur venait à rester, je n'ai aucune obligation, moi, à y rester parce que je sais que ça n'ira pas. D'accord ? C'est un travail, oui. Il me plaît, oui. Mais en Guyane, il y a tellement de choses à faire. J'ai mes deux mains pour l'instant. J'ai mon cerveau qui fonctionne plus ou moins correctement. Vous me direz si c'est le cas ou pas. Donc, je n'ai pas peur de ça. Donc, c'est pas ce qui va me rebuter. S'il reste. Mais en tout cas, nous, on a demandé son départ. Après, advienne que pourra.
Messieurs, je vous remercie. On va vous libérer très très vite. Vous avez beaucoup de choses à faire. Ce que je vous propose maintenant, c'est à vous, membres du public, de venir nous rejoindre et de rebondir, parce que les micros sont à vous, de venir rebondir sur ce qui s'est passé ici, sur ce qui s'est dit ici. Merci encore à vous.
Merci à tous.
Merci à Radio PK. Bravo à vous. Bon travail.
Mesdames, les micros sont à vous.
Sommation.
Je ne vais quand même pas passer mon temps à m'expliquer.
Troisième sommation.
Ça suffit.
Troisième sommation.
D'accord.
Ok.